Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18.
Et si on lâchait tout, et si on considérait le Covid comme une grippe, si on levait toutes les restrictions, on ne rêvait pas, hein, mais certains de nos voisins commencent doucement à sauter le pas et veulent désormais que l'on traite le Covid comme un virus endémique, pas une pandémie. Qu'est-ce qu'ils ont levé? Est-ce qu'ils ont un calendrier? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Nous le verrons très vite. Le bruit du monde est en Corée du Sud, qui va voter un tout petit peu avant nous et qui jongle, elle aussi, vous allez l'entendre, avec un virus qui cannibalise encore les débats. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Marion Laura a trouvé une tombola argentine un peu spéciale. Ryanair très remontée contre Boris Johnson et Mario Bros en mode presque symphonique. Ça se passe au Japon. À 18h50, c'est le monde de Joe Biden. Anus horribilis pour le premier président qui fête ses un an dans la division. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Fourou. Comment la Chine accumule les soucis à 3 semaines de l'ouverture des JO?
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Le scénario du pire s'éloigne, c'est ce que nous a dit le professeur Fontanet ce matin sur France Inter. Et la question qui vient derrière, c'est alors, et si on lâchait tout, si en tout cas on traitait ce virus comme un virus endémique et plus comme une pandémie? Certains de nos voisins disent « chiche ». Allons-y, faisons comme ça, certains plus franchement que d'autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble en visitant quelques capitales. C'est à Madrid qu'on va commencer. Bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir Fabienne.
On commence avec vous Mathieu, parce que chez vous on l'entend un peu comme une petite musique depuis plusieurs jours. Traitons donc ce Covid comme une épidémie de grippe. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Alors, en tout cas, les autorités sanitaires, donc gouvernement et région, veulent s'inspirer de la gestion de la grippe en ce qui concerne la manière de compter les cas, de surveiller les vagues. Actuellement, l'Espagne fait comme tous les autres pays du monde, hein, elle s'efforce de compter les cas positifs un par un, et par addition de donner chaque jour un chiffre de contagion. Mais cette comptabilité mobilise beaucoup de ressources, ressources qui pourraient être employées à autre chose, par exemple à mieux s'occuper des cas les plus graves. Et puis en plus, cette méthode n'empêche pas de passer à côté de certains cas. Des malades légers qui ne se font pas de tests, par exemple, ou alors qu'il faut un autotest et qui gardent le résultat pour eux. Alors, que faire? Eh bien, nous disent les spécialistes espagnols, interroger certains hôpitaux, certains centres publics de santé, et les utiliser comme des échantillons représentatifs, comme on fait pour les sondages, si vous voulez. Et à partir de là, on se ferait une idée de la réalité nationale, une idée pas forcément moins fiable qu'avec la comptabilité individuelle. Et effectivement, ça existe déjà pour la grippe, autant en Espagne qu'en France d'ailleurs. Ça fait 1 an et demi que l'Espagne planche sur le sujet, et Madrid a commencé à en parler à ses partenaires européens.
Donc, en dehors de la comptabilité, est-ce qu'il y a d'autres pistes de réflexion pour lâcher du lest chez vous?
Alors, du côté officiel, la comptabilité, c'est la seule chose qui illustre cette volonté affichée par Pedro Sanchez, qui avait dit qu'il voulait passer, qu'il voulait réfléchir à passer de la gestion d'une pandémie à celle d'une maladie endémique. Mais en dehors des autorités, il y a une organisation de médecins généralistes qui propose d'aller beaucoup plus loin. La CEMFIC, c'est son nom, son acronyme, constate le bon niveau d'immunité collective et appelle à planifier la levée des restrictions, y compris le port du masque, les réunions, les jauges, les quarantaines et isolements. Ils appellent à réserver la vaccination des enfants au seul cas de comorbidité et même à accepter, à assumer, ce sont leurs mots, un nombre de morts inévitables du Covid, comme on le fait pour la grippe, comme on le fait pour le suicide, pour le tabagisme ou pour les accidents de la route. En résumé, la CEMFIC appelle, je cite, « à concentrer les efforts sur la protection des personnes les plus vulnérables plutôt que d'essayer de freiner, probablement avec peu de succès, la circulation du virus parmi la population ». Fin de citation.
Alors, est-ce que tout le monde, quand même, Mathieu, est d'accord avec cette approche ou est-ce que ça fait vraiment débat?
Non, ça fait débat. Pour commencer, ça fait pas consensus chez tous les médecins. Il y a 2 autres collectifs de médecins de famille en désaccord avec l'organisation que nous venons de citer. Ils appellent à la plus grande prudence. En gros, les principaux arguments contre ce relâchement général, c'est qu'Omicron a beau supposer moins de risques d'être hospitalisé, moins de risques individuellement pour chaque personne touchée par le virus, si globalement le variant contamine beaucoup plus de monde, ben on en comprend bien que le risque d'avoir des hôpitaux débordés se maintient. Et puis, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas du tout comment seront les prochains variants. Si les immunités des populations acquises par la vaccination et par les contaminations seront durables ou non. Sans oublier que l'Espagne est très marquée par la virulence de la première vague, et les citoyens eux-mêmes ne se débarrasseront peut-être pas si rapidement de leurs habitudes de prudence.
On s'en souvient très bien de ce moment-là, Mathieu de Taillac. Merci beaucoup. Allons donc chez vos voisins, justement, qui vous regardent peut-être avec intérêt, les Portugais. Bonsoir, Olivier Bonamici.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous.
Chez vous, Olivier, on garde un œil sur les voisins, j'imagine. Sur les contaminations, c'est vrai, mais on a aussi lâché beaucoup de lest. Et d'ailleurs, le nombre de contaminations vous aide à lâcher ce lest-là?
Alors, le Portugal tourne actuellement autour de 40 000 cas par jour. Il faut rappeler quand même qu'il y a 6 fois moins d'habitants qu'en France. Mais depuis une semaine, le nombre de personnes contaminées ne progresse plus. Alors, par rapport aux chiffres de l'an dernier, il y a 5 fois plus de cas positifs. En revanche, il y a beaucoup moins de décès et de personnes en soins intensifs. Donc, actuellement, on sent, Fabienne, qu'il y a un climat plutôt optimiste. Et même si le discours du gouvernement portugais est un peu plus prudent qu'en Espagne, on estime que le pire est peut-être derrière nous.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est devenu, du coup, moins strict chez vous sur les isolements, sur les obligations de télétravail, ouais, sur toute forme de contraintes. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas eu besoin de discuter passeport vaccinal à la place de passeport sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui sont plus relâchées, on va dire.
Oui, on a le télétravail qui est plus obligatoire, et puis avec le pass sanitaire, donc vaccin ou test négatif, on peut entrer presque partout, hein, au Portugal, restaurant, cinéma, théâtre, et au Portugal, le pass vaccinal n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et les anti-vaccins, on entend très très peu parler ici, et d'ailleurs le Portugal se targue d'avoir un taux de vaccination extrêmement élevé, puisque plus de 90% de la population a reçu les 2 doses. Les discothèques et les bars ont même rouvert leurs portes cette semaine. Mais là, en revanche, pour ces 2 types d'établissements, même avec un vaccin, il faut présenter un test négatif, même si un autotest est suffisant. Et pour ce qui est des grands événements, hein, sportifs et culturels, par exemple un match de football ou un concert, c'est pareil, test négatif exigé, sauf pour toutes les personnes qui ont reçu leur 3e dose. Donc, si vous venez au Portugal, vous allez voir que c'est peut-être pas la vie comme avant, mais on n'en est pas très loin.
Et pas d'école fermée d'ailleurs, Olivier, aussi. Et je vous pose la question parce que c'est vraiment le gros souci chez nous. Pas d'école fermée, mais pas de psychodrame non plus, apparemment.
Non, pas du tout. Alors, ce qui est vraiment surprenant au Portugal par rapport à la France, c'est que toutes les écoles sont ouvertes malgré l'explosion du nombre de cas. Mais il y a quand même un motif de préoccupation et qui pourrait entraîner la fermeture de certaines classes, c'est le nombre de professeurs contaminés. Autrement dit, toutes les classes sont ouvertes au Portugal, hein, mais de nombreux cours sont annulés. Mais il y a quand même un motif quand même positif au Portugal, c'est que les jeunes, à l'image des autres Portugais, se protègent contre le Covid, puisque même dans la tranche d'âge des 5-11 ans, plus de la moitié des élèves sont aujourd'hui vaccinés, ce qui facilite donc, bien entendu, le travail des professeurs et des écoles.
Dites, Olivier, une dernière question que je poserai d'ailleurs aussi au suivant et tout à l'heure en Espagne. Mathieu y a un peu répondu. Est-ce qu'il y a un calendrier de sortie? Ou je vais même le reformuler. Est-ce qu'on se risque à parler d'un calendrier de sortie?
Alors, je dirais pas pour l'instant, mais quand même, quand vous avez les discothèques qui rouvrent au Portugal, c'est quand même un signe. Moi, j'y suis pas encore allé, je vous l'avoue. Pas encore. Mais.
Si vous êtes
encore,
vieux.
Ça va venir. Ça va venir. Mais en tout cas, il n'y a pas de calendrier de sortie pour l'instant, parce que c'est trop tôt. Et puis, il y a quand même 500 000 personnes aujourd'hui. 500 000 personnes aujourd'hui en isolement. À l'échelle du Portugal, qui a environ 10 millions d'habitants, c'est énorme. Et d'ailleurs, ça va poser un problème. Là, et tout le monde en parle. C'est la grosse actu au Portugal. Les élections législatives vont avoir lieu dans 15 jours. Comment ces personnes, 500 000 personnes, vont-elles pouvoir voter? Est-ce qu'il va y avoir une influence ou non sur les résultats? Ça, on va le voir dans 15 jours. En tout cas, là, on vient d'avoir, ça vient de tomber il y a une heure environ, les chiffres du jour, 21 000 cas positifs, c'est presque comme lundi dernier. Mmh. Donc, le plateau semble se confirmer. Donc, il y a un climat vraiment d'optimisme au Portugal.
Eh ben Olivier, merci beaucoup et vous viendrez nous raconter comment se passent vos élections parce que ça nous concerne pour dans quelques semaines aussi. Merci beaucoup. Nous partons pour la Grande-Bretagne dont on dit toujours qu'elle a 15 jours d'avance sur nous. Donc c'est un excellent repère. Bonsoir Laura Calmus.
Bonsoir Fabienne.
Et en effet Laura, dans les chiffres, la Grande-Bretagne, au vu de ces fameux 15 jours, a de quoi nous encourager.
Oui, exactement. Les signes sont encourageants selon le gouvernement qui estime que la phase la plus difficile d'Omicron est déjà passée. Alors le nombre d'hospitalisations a baissé de 5% la semaine dernière à Londres et pour les experts, c'est le signe que la capitale a atteint son pic et que le reste du pays va très certainement suivre la même trajectoire car Londres a de l'avance par rapport au reste du Royaume-Uni qui, comme vous l'avez dit, a de l'avance par rapport à la France. Et donc ces données sont très importantes. Le pays a également enregistré une baisse du nombre de cas positifs, près de 44% en une semaine. Aujourd'hui, un peu plus de 84 000 personnes ont été testées positives, mais avec la pénurie de tests dans le pays, les chiffres sont à prendre avec précaution, d'autant plus qu'il n'est plus nécessaire de faire un test PCR après un test antigénique positif et qu'il est probable qu'un nombre important de personnes ne s'enregistre pas et donc moins de cas positifs sont officiellement déclarés.
Mais du coup, Laura, chez vous en Angleterre, est-ce que l'heure est à la levée des restrictions ou pas ?
Exactement. La décision finale est fixée au 26 janvier, date à laquelle les mesures mises en place doivent être réexaminées. Mais selon la chaîne Sky News, la date pourrait même être avancée. Dans tous les cas, en Angleterre, ce sera peut-être la fin du télétravail et du pass sanitaire actuellement obligatoire dans les boîtes de nuit et les gros événements sportifs. Un pass sanitaire qui ne sert donc pas à l'entrée des restaurants, par exemple, ou des cinémas. Et donc, il est tout à fait possible de vivre presque normalement sans pass sanitaire ici en Angleterre. En fait, les autorités veulent tout miser sur la troisième dose. Plus de 62% des plus de 12 ans ont d'ailleurs reçu ce booster jab, comme on l'appelle ici, cette dose de rappel. Omicron est moins sévère que Delta, selon les premières études, et donc les autorités ont indiqué que toutefois, pour le moment, une quatrième dose n'était pas nécessaire. Et Boris Johnson espère aussi que cet allègement des restrictions fasse diversion. Il est empêtré, comme vous le savez, dans des affaires de fêtes clandestines qui ont eu lieu pendant le confinement, et il espère qu'une bonne nouvelle pour les Britanniques puisse redorer son image.
Mais alors du coup, même question qu'au Portugal et même formulation d'ailleurs, est-ce qu'on ose parler de fin de pandémie ou c'est des mots qu'on préfère ne pas prononcer ?
Eh bien si, pour certains experts, on pourrait bientôt parler d'endémie et non plus de pandémie. Cela veut dire que le virus ne va pas disparaître, mais qu'il sera bientôt possible de vivre normalement, même si un nombre important de la population continue de l'attraper. D'autant plus que, selon le Télégraphe, Boris Johnson devrait annoncer prochainement qu'il ne sera plus obligatoire de s'isoler lorsque testé positif. En fait, le Premier ministre aimerait tout simplement révoquer toutes les lois d'urgence autour du coronavirus. Il sera tout de même conseillé d'appliquer tous ces gestes barrières. Alors, pour le moment, rien n'a été confirmé par le gouvernement, mais selon la presse, cette annonce pourrait avoir lieu au printemps.
Et là, on parle de tout le Royaume-Uni ou pas ?
Non, on ne parle que de l'Angleterre, car chaque nation, en fait, décide de ses propres règles sanitaires. Boris Johnson pour l'Angleterre, il y a également l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. À chaque nation, ses mesures. En Écosse, par exemple, c'est la première ministre Nicola Sturgeon qui est en charge. Et de façon générale, il y a toujours un peu plus de restrictions en Écosse qu'en Angleterre. Les événements sportifs, par exemple, viennent tout juste d'être réautorisés. Les grands rassemblements en plein air ne sont plus limité à 500 personnes depuis une semaine, avec les matchs de rugby du tournoi des Six Nations qui reprendront le 5 février en Écosse.
Laura Kalmus avec nous depuis Londres. Merci beaucoup Laura. Notre toute dernière escale, comme souvent, est pour Israël, qu'on regarde aussi très très près. Et bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
On vous regarde de près comme d'habitude parce que vous, c'est pas 15 jours, c'est 3 mois d'avance que vous avez. Et c'est ça qui joue. On voit bien la Grande-Bretagne qui se détend très largement, même si d'ailleurs elle n'a pas achevé les troisièmes doses. Vous, Frédéric, on a eu beaucoup d'allers-retours, mais vous êtes à la quatrième dose pour les plus vieux. Est-ce qu'on parle chez vous d'endémie, donc le nouveau mot de la journée, enfin, ou de la fin de semaine et du début de l'autre, ou est-ce qu'on parle toujours de pandémie ?
On parle d'un objectif endémique, Fabienne, sans vraiment fixer de calendrier, mais désormais, les scientifiques israéliens nous disent on peut espérer arriver à terme à une situation endémique comme la grippe. Ça voudrait dire qu'on devrait se vacciner. Alors peut-être une fois ou deux fois par an contre ce virus, et puis on apprendrait à vivre avec le virus. En revanche, on ne parle pas d'immunité collective, l'immunité grégaire. Ça, c'est plus du tout l'objectif, parce que en Israël, quand même, on plafonne sur le taux de personnes vaccinées et on pense que l'immunité collective n'est pas un objectif, c'est plutôt l'endémie.
Mais on a quand même l'impression que vous avez beaucoup lâché sur les restrictions, et la plus spectaculaire, Frédéric, c'était l'ouverture des frontières, par exemple.
Voilà, exactement. Les frontières, depuis mars 2020, elles ont été ouvertes 3 semaines en tout et pour tout. Ça veut dire que l'industrie touristique a à peine eu le temps de redémarrer au mois de novembre dernier, que tout était refermé. Et donc, enfin, elles ont rouvert le 9 janvier dernier. Les professionnels du tourisme espèrent vraiment que ça va relancer ce secteur qui a beaucoup, beaucoup souffert. Alors attention, on rentre pas n'importe comment en Israël. Faut avoir 3 doses du vaccin, faut avoir un PCR négatif au départ, réaliser un PCR à l'arrivée et observer une quarantaine de 24 heures. Mais une quarantaine de 24 heures pour les voyageurs, c'est beaucoup plus court, hein, puisque moi, par exemple, j'ai connu des quarantaines de 14 jours. La quarantaine des contaminés a également diminué. Elle est passée de 14 à 7 jours et depuis cet après-midi, elle est fixée à 5 jours. Les restrictions, en réalité, il y en a quasiment plus en Israël. Tout est ouvert sans jauge, mais quand même sur présentation du pass sanitaire. Les discothèques, on parlait du Portugal en Israël, n'ont jamais refermé depuis la fin des confinements. Les écoles restent ouvertes avec un protocole proche du protocole français. Alors c'est vrai que c'est pas simple, il faut se tester, il y a la queue pour avoir des tests antigènes, mais rappelons-nous qu'en Israël, les écoles ont été fermées quasiment un an, avec donc un an de cours en distanciel. Donc franchement, les parents d'élèves israéliens vous le diront, vaut mieux peut-être un peu de bazar que la refermeture des classes.
Est-ce que là aussi, le mot calendrier est un mot qu'on prononce en se disant on en sortira, donc à un moment il n'y aura plus rien, même plus de masque, ou est-ce que là encore, c'est beaucoup trop touchy, j'allais dire, beaucoup trop difficile pour prononcer ce genre de mots?
Non, Fabienne, on parle pas de calendrier. Le masque reste prescrit dans les espaces publics intérieurs. Faut reconnaître que les Israéliens sont pas toujours très disciplinés, mais en tout cas, il n'y a pas de date pour enlever le masque. Il n'y a pas de calendrier. Le Premier ministre Naftali Bennett, il est plutôt prudent. Il a déclaré « Nous sommes dans l'œil du cyclone. On parle d'un pic d'ici le 30 janvier. » Vous voyez, il n'y a pas réellement de date très très précise. Et en tout cas, personne ne se risque à dire que la crise du corona est terminée ici.
Juste une toute dernière chose. Là aussi, vous avez de l'avance sur nous. On en parle à peine. Nous, on sait que ça viendra de manière imminente. Mais vous avez commencé. Pensez-vous à prescrire les traitements ?
Oui, depuis fin décembre, les professionnels de santé peuvent administrer les pilules anti-Covid, hein, le Paxlovid de Pfizer ou le Molnupiravir de Merck. Molnupiravir, j'espère que je l'ai bien dit. Un millier de personnes environ sont sous traitement en Israël. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la chaîne 12, la plus regardée en Israël, qui nous l'a révélé la semaine dernière. Eh bien, la défiance, elle ne concerne pas seulement les vaccins, elle concerne aussi ces pilules, puisque selon cette chaîne 12, un tiers des patients éligibles à ces traitements, eh bien, les refusent.
Merci beaucoup, intéressant, vraiment. Merci beaucoup, Frédéric Mettezo. Merci vraiment, merci à tous les quatre de votre petit passage. On aura forcément l'occasion de se reparler. Allez.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Corée du Sud qui vote un petit peu avant nous ce printemps, avec aussi des contraintes sanitaires qui polluent le débat, pas seulement d'ailleurs, tout ça un petit peu comme nous, vous allez voir. Et la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Marion Lourd.
Un député argentin se prend pour Robin des Bois et fait gagner son salaire à la tombola.
Le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Première bougie pour Biden à la Maison-Blanche. Un an et le bilan n'est pas très réjouissant.
À tout de suite, le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir à vous.
Bonsoir Thomas. Tout le monde. À trois semaines des Jeux Olympiques d'hiver, la Chine a des soucis. Hein, cas de Covid, pression diplomatique, ralentissement économique et baisse persistante de la natalité.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis, tiens, avec Father John Misty, Funny Girl. Et c'est sur France Inter.
Funny girl, you look so unassuming, right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed into a five-foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy. Could you pencil in an industry outside? Funny girl,
Le bruit du monde ce soir est en Corée du Sud qui, elle aussi, vote ce printemps. Élection présidentielle, un peu comme la nôtre, ça va se passer le 9 mars prochain. Et issue très incertaine comme la nôtre, d'autant que la campagne est pour l'instant autant marquée par les scandales dans les deux camps que par les débats d'idées. Par ailleurs, et là aussi on va se reconnaître, bien que le nombre de cas quotidiens soit nettement inférieur au nôtre, des restrictions sanitaires assez strictes sont encore en place en Corée du Sud et influencent nettement la campagne. Le reste, c'est Nicolas Roca qui raconte.
Les températures glaciales comme les interdictions de rassemblement privé au-delà de 6 personnes limitent les activités dans les rues de la capitale où la campagne présidentielle ne semble pas encore battre son plein. En revanche, dans les cafés où se retrouvent les séoulites pour affronter l'hiver, les discussions tournent autour du sujet Kim Seung, la quarantaine.
J'ai remarqué que du fait de la pandémie, une part importante de l'actualité politique se déroule en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Du fait de cette ambiance post-pandémie, les rues semblent plus silencieuses, alors qu'il y a beaucoup d'activités sur Internet. C'est là que je me suis dit que les campagnes politiques avaient changé depuis la pandémie.
Si les méthodes évoluent, un fait reste constant. C'est devant l'Assemblée nationale que les Sud-Coréens viennent manifester leur mécontentement. Ce lundi, ce sont des livreurs qui dénoncent leurs conditions de travail. À portée de voix de la manifestation se trouve le siège du Parti conservateur. Nous y retrouvons Lee Young-soo, député du Parti du pouvoir du peuple et porte-parole du candidat de droite, Yoon Suk-yeol.
C'est extrêmement compliqué de mener une campagne électorale alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. Normalement, c'est essentiel de rencontrer les électeurs et d'entendre directement les préoccupations des gens. Alors on essaie d'organiser la campagne en respectant les règles sanitaires mises en place par le gouvernement. Pour cela, nous portons une attention toute particulière à la communication en ligne pour rencontrer les électeurs autrement et puis nous privilégions les petits rassemblements.
Ces équipes de campagne ont mis en place un site internet intitulé WikiYoon, un jeu de mots mêlant Wikipédia et le nom du candidat. La plateforme retrace son histoire personnelle, présente son programme et recense ses interventions. Mais surtout, Yoon Suk-yeol est modélisé à travers une intelligence artificielle qui chaque jour répond à un commentaire sur la plateforme. Ici, un internaute qui explique que sa mère apprécie beaucoup le candidat.
Bonjour, je suis l'intelligence artificielle de Yoon Suk-yeol. Merci Kim Jong-hae pour le commentaire. Dites à votre mère que je la remercie, mais WikiYoon cherche également votre soutien. S'il vous plaît, aidez. Et comme toujours, nous sommes pleins d'espoir et d'énergie.
Des moyens au service d'un discours notoirement opposé à celui du gouvernement actuel qui a par exemple augmenté les taxes sur la propriété. Lui souhaite les baisser en promettant de freiner l'explosion des prix de l'immobilier dans le pays. Du côté du candidat démocrate, Lee Jae-myung, lui a mis en place une application où chacune de ses interventions ou propositions peuvent être commentées. Mais c'est surtout sa chanson de fin d'année qui a marqué les esprits. Dans un clip, il rappe déguisé en Père Noël. Des outils destinés à séduire une jeune génération de plus en plus critique à l'égard de la classe politique et des scandales à répétition. Mais pour Yoon Chae-rin, 26 ans, sur cette élection, ce sont plutôt les idéologies qui séduisent ses semblables.
Je pense que les gens dans leur vingtaine ou leur trentaine sont plutôt intéressés par le débat entre féminisme et antiféminisme dans cette campagne. Le féminisme a commencé très tard ici, comparé aux pays européens, et maintenant c'est quelque chose de très important. Selon les personnes que les partis politiques mettent en avant, ils peuvent perdre des voix. Les partis de droite, par exemple, essaient d'amener des personnalités féministes dans leur campagne. Et les gens de 20 ou 30 ans changent d'avis en fonction de cela.
Une stratégie paradoxale car dans le même temps, le candidat de droite souhaite supprimer le ministère de l'égalité des genres afin de séduire une partie des jeunes hommes de plus en plus antiféministes. À gauche, Lee Jae-myung cherche lui aussi à conquérir cet électorat, notamment avec sa proposition de revenu universel.
Ce que je propose, c'est un changement progressif. Quand le gouvernement a donné une aide financière à tous les Sud-Coréens durant la pandémie, cela a été perçu comme bénéfique. Si nous arrivons à verser par exemple 367 euros deux fois par an à tous les Sud-Coréens, cela ne représentera que 4% des dépenses publiques.
Plus d'un an après cette déclaration, il promet désormais 1470 euros par an pour tous les jeunes et 733 euros pour le reste de la population. Une proposition très critiquée mais largement inférieure à celle d'un autre candidat qui se déclare hors système. Ce dernier souhaite que chaque adulte reçoive 73 000 euros d'aide exceptionnelle post-pandémie et 1100 euros par mois. Hee Kyung-yong, candidat pour la troisième fois, cherche à dépasser son record de 0,4% des suffrages et pour cela, lui aussi a tenté de se faire connaître en musique.
Eh ben, voyez que notre campagne est pas si terrible. Nicolas Roca pour le reportage. Merci beaucoup. À très très vite. Le bruit du monde. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Marion Loire.
Oh, no?
Et alors, ce qu'on entend là, Marion, c'est le direct sur Nuevo Telenoche. C'est la télé argentine. C'était mercredi dernier. Et comme beaucoup d'autres médias, elle est en train de dévoiler en direct les résultats d'une tombola pas comme les autres.
Et plus d'un millier de participants inscrits pour remporter quoi? Le salaire de député de Javier Milei, parlementaire populiste de Buenos Aires. 250 000 pesos, soit 1700 euros environ pour un peu moins d'un mois de traitement pour cet élu en poste depuis le 10 décembre. L'économiste libertaire est venu en personne annoncer les résultats à la station balnéaire très fréquentée de Mar del Plata.
Bueno, ahí está, Hugo Federico Nacanaro.
Federico Hugo Nacarado, le gagnant, est un ouvrier en bâtiment de 40 ans. Comme une rockstar au son de Guns N' Roses, Javier Milei débarque ensuite sous les applaudissements. Il déroule son discours, se présente comme une sorte de Robin des Bois. D'après lui, ce héros ne volait pas aux riches pour donner aux pauvres, mais aux percepteurs des impôts pour rendre l'argent à ceux qu'il avait honnêtement gagné. Sur celui qui se décrit comme anarcho-capitaliste, Javier Milei s'engage à organiser une tombola par mois pour faire gagner son salaire aux Argentins. Il promet lui de vivre des honoraires de ses conférences. Ça devrait entretenir la popularité grandissante de cet admirateur de Trump et Bolsonaro, apprécié des classes moyennes qui se plaignent souvent de la fiscalité, de la corruption en Argentine, mais aimé aussi dans les quartiers populaires où beaucoup d'habitants vivent pourtant de l'aide de l'État.
Allez, lui aussi est prompt à la dénonciation.
Et là aussi ça marche, en tout cas sur les réseaux sociaux. Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, et son équipe d'administrateurs n'hésitent pas à s'en prendre au gouvernement britannique depuis le début de la pandémie, à dénoncer les aides accordées aux autres compagnies aériennes, à taper sur les non-vaccinés, accusés de freiner la reprise de leur secteur. Dernier exemple en date, Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, non vacciné, tout juste chassé d'Australie, moquait dans une petite vidéo parodique légendée « J'ai vu un type fatigué à l'aéroport, Modiez, Novax ». Le champion en mode cartoon, il discute avec un avion. Je souffre tellement du décalage horaire avec l'Australie, se plaint le tennisman. Ah bon, pourquoi? Lui répond l'avion. Parce que je viens de revenir d'Australie, trait d'humour un peu absurde. Le compte Twitter de Ryanair est plus féroce avec le Premier ministre britannique et son Partygate s'est fait organiser à Downing Street en plein confinement. Exemple, image postée en ligne, fausse carte de cocktail d'été à venir à bord de Ryanair. L'un d'entre eux s'appelle le Bojo Ito. Bojo comme Boris Johnson, ou encore cette photo de Kim Kardashian diffusée jeudi et accompagnée de ce commentaire. Voici notre nouvelle juriste à Downing Street. Tout ça n'empêche pas Ryanair de réclamer aussi les aides Covid au gouvernement.
Allez, un petit peu de douceur s'il vous plaît pour terminer, Marion.
Ouais, on va pas vous laisser sur cette ambiance moquerie et vitriole. Alors je vous présente le jeune japonais Hayato Sumino, pianiste de 26 ans seulement, un véritable virtuose qui a remporté le concours le plus prestigieux de sa discipline, mais qui délaisse volontiers la queue de pie et le nœud papillon pour le t-shirt basket. Et s'il joue du Chopin ou du jazz, il sort aussi la musique classique de son carcan, parfois jugée élitiste. Pour la ramener sur sa chaîne YouTube, Hayato Sumino y interprète des morceaux très variés, dont des bandes originales de jeux vidéo. C'est beau, hein, même si ça vient de Super Mario.
Non, je reconnais pas. C'est vraiment du Super Mario?
Oui, oui.
Non, Super Mario, ça?
Ouais, oui, c'est une impro autour de Super Mario.
Bah, premièrement, je ne sais jouer qu'à Mario Kart, vous me direz. Donc,
moi, je suis très mauvaise à Mario Kart.
Merci beaucoup, Marion. Merci vraiment. Voilà, c'est ce que j'allais dire à demain, mais en fait, non, puisque demain, théoriquement, Sébastien revient. Donc, ben, portez-vous bien. Allez.
Oui.
Je ne présente pas la chanson qui vient, tellement c'est un classique à reconnaître dès les premières mesures.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais.
está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça...
Inusable, Chico Buarque sur France Inter. Sébastien Paour nous attend comme chaque lundi.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique de Joe Biden, Sébastien, on fête cette semaine, en fait, si on peut dire, d'ailleurs, la première année, ouais. Un bilan pas très très reluisant, annus horribilis, disais-je tout à l'heure, un an d'investiture, c'était le 20 janvier dernier, en effet.
Ouais, 20 janvier 2020, rappelez-vous, Biden arrive juste après l'invasion du Capitole. 20 janvier 2021, on y sera jeudi. Les priorités de sa première année de mandat ne sont pas atteintes, ni la réforme du droit de vote qui doit défendre l'accès des minorités aux urnes, ni son plan Build Back Better. 52 semaines entre les deux donc, et celle qui vient de s'achever était particulièrement compliquée pour Biden, toujours à cause de l'opposition des républicains et d'une poignée de démocrates, et alors que le pays connaît sa pire inflation en 40 ans, semaine noire. Donc, la Cour suprême retoque son obligation de vaccination ou de test pour les employés des grandes entreprises. Les discussions avec les Russes sur l'Ukraine n'avancent pas. Et il se heurte à un mur sur le droit de vote des minorités que plusieurs États républicains tentent de limiter. Les deux sénateurs centristes bloquent sa proposition de réforme des règles pour faire passer la loi. À la sortie de son déjeuner au Capitole avec les démocrates la semaine dernière, le président américain avait du mal à cacher sa déception.
I hope we can get this done.
J'espère que nous pourrons y arriver, mais je ne suis pas certain. Mais une chose est sûre, comme pour tous les autres grands projets de loi sur les droits civiques, si on rate la première fois, on peut essayer une deuxième. Nous avons raté cette fois. Je ne sais pas si nous pouvons y arriver, mais je sais une chose. Tant que je respirerai, tant que je serai à la Maison-Blanche, tant que je serai engagé, je me battrai pour changer la façon dont ces législatures ont évolué.
Les sondages donnent Biden entre 33 et 43% d'opinion favorable. C'est assez bas. Il est encore moins populaire au bout d'un an que Jimmy Carter ne l'était. Mais les éditorialistes ici rappellent aussi qu'il y a tout de même des lignes à mettre à son crédit, notamment l'adoption de son plan de relance et de sa loi infrastructure. On en a beaucoup parlé ici même.
Alors, pendant ce temps-là, justement, Donald Trump, lui, continue de nier sa défaite.
Oui, et c'est ce qu'il a encore fait samedi soir près de Phoenix en Arizona pour sa première réunion publique de l'année. Meeting en mode campagne électorale, scène avec moult drapeaux américains et slogans « Save America », « Sauver l'Amérique ». Et donc pendant une heure et demie, Trump continue de nier la victoire de Biden à la présidentielle. Élection volée, je cite, élection truquée. Il dresse un bilan encore plus sombre de sa première année dans le bureau ovale avec le retrait d'Afghanistan ou les cas de Covid multipliés par quatre, dit-il. Et mine de rien, il prend date pour la suite, Trump, sans se déclarer candidat évidemment à un second mandat pour l'instant, mais en rappelant les grandes échéances qui arrivent et en premier lieu, bien sûr, les élections de mi-mandat, ce sera le 8 novembre.
En novembre, nous avons une chance de faire quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est peut-être l'élection la plus importante que nous ayons jamais eue, mais je crois que 2024 sera encore plus importante. C'est l'année où nous allons reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Sénat et nous allons récupérer l'Amérique. C'est tellement important. Et en 2024, nous allons reprendre la Maison Blanche.
Voilà, Trump, toujours donc sur l'échiquier politique avec la prochaine échéance présidentielle en ligne de mire, pourquoi pas, au grand dam en tout cas d'une partie du camp républicain qui voudrait laisser 2020 derrière et qui regrette qu'il soit toujours aussi clivant.
Bien. Sinon, on revient à quelque chose de plus terre à terre. Comment vous avez deviné que j'avais perdu votre feuille? On revient à quelque chose de plus terre à terre pour terminer.
Je vous connais. Alors, la vie comme elle va aux États-Unis avec ces images folles, comme on peut en voir dans ce pays. C'était il y a quelques jours. On est à Los Angeles, Californie. Un avion de tourisme vient de se poser en urgence sur le passage à niveau d'une voie ferrée. Il est accidenté, évidemment, cet avion. Le pilote, seul à bord, est coincé dans son cockpit. Un train arrive, il klaxonne tant qu'il peut, mais il ne peut pas s'arrêter évidemment aussi vite. Les images sont celles des caméras piétons des policiers qui sont intervenus. C'est chaud.
Oui.
Voilà, le petit avion est pulvérisé.
Très, très impressionnant.
Et tout s'est joué en quelques secondes. Ouais, la vidéo est très impressionnante et même au niveau sonore, ça allait aussi. Les policiers ont juste eu le temps de sortir le pilote et de le tirer hors de sa carlingue à quelques mètres des voies. Il a le visage en sang, ce pilote. Il est sonné par son accident, mais il est vivant. Il se remet, nous dit-on, de ses blessures à l'hôpital. Moi, si j'étais cet homme, en tout cas, je jouerais au loto parce que survivre comme ça à deux accidents en quelques instants, ça s'appelle de la chance.
Comme vous dites, bah, remarquez, on sait jamais. Allez, merci beaucoup, Sébastien Paour, avec nous en direct de Washington.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Jean-Marc, à moins de trois semaines des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, la Chine a publié ce matin ses résultats économiques pour 2021. La croissance affichée, plus de 8%, est toujours élevée. Mais pour vous, c'est un miroir aux alouettes. Pékin a des soucis. Et pas qu'un seul, c'est votre monde d'après.
Alors on va aller du souci le plus petit jusqu'au plus gros. On va commencer par la pandémie. Depuis 2 ans, la stratégie zéro Covid est la marque de fabrique du pouvoir chinois. Avec des résultats sanitaires indéniables, moins de 5000 morts, même si les chiffres officiels sont sujets à caution, et avec une instrumentalisation efficace de la lutte contre le virus pour renforcer le contrôle social sur la population. Seulement voilà, cette stratégie zéro Covid a du plomb dans l'aile. Les grains de sable, autrement dit les cas positifs, augmentent de jour en jour. Alors certes, entre 200 et 300 par jour, ça paraît dérisoire quand on regarde nos chiffres à nous. Mais quand l'objectif affiché c'est zéro, 300 c'est beaucoup, c'est même un record pour le pays depuis mars 2020. Plus inquiétant, il y a plusieurs foyers, à Tianjin sur la côte, à Shenzhen dans le sud, à Xi'an dans le centre, confinés depuis un mois, à Anyang et même depuis ce week-end, un cas à Pékin. Pékin, pourtant la forteresse fermée à quadruple tour. Pour ne rien arranger, deux événements se profilent qui pourraient accélérer la propagation du très contagieux Omicron. Le nouvel an chinois le 1er février et les JO à partir du 4, même si toutes les délégations sportives sont censées n'avoir aucun contact avec la population chinoise. Donc tenir l'affichage zéro Covid devient compliqué. Bon, cela dit, si les cas augmentent, l'argument est tout trouvé pour le pouvoir, ce sera bien sûr la faute des délégations étrangères.
Alors, à propos des JO, d'ailleurs, ils ne se présentent pas sous de très bons auspices avec ce boycott diplomatique.
C'est le deuxième souci pour Pékin. Hein. Le pouvoir chinois ne va pas pouvoir utiliser les Jeux comme il l'espérait. Une pleine démonstration de puissance devant le monde entier dans la continuité des Jeux d'été de 2008. Cet objectif a lui aussi du plomb dans l'aile avec le boycott diplomatique des États-Unis et aussi de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni. L'Europe est plus mi-chef mi-chou, mais elle n'enverra pas pour autant de chefs d'État ou de gouvernement. Seul Vladimir Poutine sera présent aux côtés de Xi Jinping pour la cérémonie d'ouverture, ce qui va renforcer l'impression d'une alliance des régimes autoritaires. Le fait est là, 2 ans après le début de la pandémie, l'image de la Chine dans le monde reste détériorée, marquée au fer rouge par l'opacité sur les origines du virus. Et puis sur le terrain sportif, le sort réservé à la championne de tennis Peng Shuai n'a rien arrangé. Bon, cela dit, là non plus, pas de quoi s'affoler pour le pouvoir chinois, sa réponse est toute trouvée. Ne venez pas aux cérémonies, de toute façon vous n'étiez pas invité. Et puis, la démonstration de puissance aura lieu malgré tout, au moins à l'intention de la population chinoise qui vit, rappelons-le, coupé du monde extérieur en termes d'information. L'ordre à l'intérieur du pays, c'est, ça demeure, l'objectif prioritaire de Xi Jinping qui entend encore renforcer son pouvoir lors du 20e congrès du PC à l'automne prochain.
Mais alors Jean-Marc, il reste la guerre des nerfs, et c'est l'économie.
Le nerf de la guerre, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est le troisième souci, et c'est le plus important en effet. En apparence, tout va bien, on le disait, les chiffres dévoilés ce matin affichent une croissance de 8% l'an dernier, mais c'est un peu une illusion. D'abord, c'est une augmentation relative, puisque la hausse a pour repère la très faible année 2020, et puis ce rebond retombe, seulement 4% au dernier trimestre 2021. L'économie chinoise ralentit, la baisse des taux d'intérêt annoncée aujourd'hui par la Banque Centrale Chinoise est révélatrice, il s'agit de relancer la machine. Le secteur immobilier, qui compte à lui seul pour un quart de la croissance, tremble depuis le scandale Evergrande, la politique zéro Covid dont on parlait à l'instant limite les investissements étrangers. La consommation intérieure est faiblarde. Seulement plus 1,7% pour les ventes au détail. Ce sont les exportations toujours vers les États-Unis, l'Europe qui continuent de porter la croissance, pas la consommation des ménages. Et surtout, l'évolution de la société chinoise soulève des interrogations. Évolution sociologique, l'appétit pour la consommation à tout prix décroît au profit d'un besoin de services. Mmh. Et plus encore, évolution démographique. Là encore, chiffre fascinant publié ce matin, la natalité est au plus bas depuis 45 ans. Malgré l'abandon de la politique de l'enfant unique, la natalité continue de reculer. Seulement 7 à 8 naissances pour 1000 habitants, on est entre 10 et 11 en France. C'est le reflet d'un manque de confiance dans l'avenir et la confirmation que la Chine pourrait devenir vieille avant que de devenir riche.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup. Jean-Marc, c'est tous les soirs, bien sûr, dans Un jour dans le monde. Pour nous, ça continue dans un instant. C'est le journal de 19h d'Hélène Philippe. Et juste après, le téléphone sonne, à tout de suite.